Je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine, mais la France vient de vivre une tragédie humaine, bouleversante. Hein, Toulouse, Montauban, qui illustre ô combien tristement la réalité que le monde dans lequel nous vivons est dans l'obscurité. Et en contraste, la fête de Pâques que nous allons célébrer dans 2 semaines, pour moi, elle résonne avec d'autant plus de force, parce que nous voulons proclamer que non, les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Que oui, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, est ressuscité. Oui, Dieu nous a appelés à passer des ténèbres pour vivre à son admirable lumière, par la foi en Jésus-Christ. Je cite là un verset de la première épître de Pierre. Et je veux nous inviter ce matin à lire un passage dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 6. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans ma Bible, cette section est intitulée « Vivre dans la lumière ». Et dans ce texte, nous pouvons voir 3 facettes de cette vie dans la lumière. La première est que c'est une vie qui est éclairée. Christian l'a rappelé ce matin, que Dieu vient éclairer nos vies. Celui qui a mis sa confiance en Dieu est appelé à voir les choses comme Dieu les voit, à recevoir l'éclairage de Dieu sur sa vie. Mais Paul nous avertit dans ce texte de 2 dangers. C'est pas très lumineux justement. Attention aux faux éclairages, nous dit Paul. Que personne ne vous trompe, dit-il au verset 6. Jésus est la lumière qui éclaire le monde. C'est Jésus lui-même qui le dit, je suis la lumière du monde. C'est lui la véritable lumière qu'il faut accueillir dans sa vie. Il y a cependant tout autour de nous une multitude de lumières qui, si nous les suivons, nous détournent de la véritable lumière. Alors il y a des lumières qui sont criantes, mais il y en a qui sont parfois des lumières Canada Dry. C'est-à-dire qui ressemblent à la vraie lumière, qui ont le goût de la vraie lumière, mais qui ne sont pas la vraie lumière. On peut penser, quand vous faites des courses, moi, que j'achète un vêtement, j'ai toujours des problèmes avec l'éclairage artificiel, parce que je ne sais pas quelle est vraiment la couleur de l'habit que je vais acheter. Souvent, j'ai envie d'aller dehors pour voir à la véritable lumière quelle couleur il a vraiment, sinon parfois on risque d'être déçu. Ceux qui vont en boîte de nuit savent que la lumière noire, non, elle change, ça fait ressortir, c'est de l'ultraviolet, ça fait ressortir tout ce qui est blanc. Et puis ceux qui ont fait de la photo, qui ont travaillé dans un labo photo, ils savent qu'on a une lumière rouge, mais que dans la lumière rouge, tous les reliefs disparaissent. C'est très très difficile de vivre et d'avancer dans un contexte de lumière rouge. Il y a un certain nombre de lumières qui peuvent nous détourner de la grâce de Dieu. Paul dit que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Et si Paul le dit, c'est qu'il y a véritablement un danger d'être attiré par ces lumières et de se détourner de la véritable lumière. Alors à l'époque, de l'Église des premiers temps, il y avait une première lumière qui consistait à dire, c'était tout le courant gnostique qui disait, le corps peut pécher sans que cela n'affecte l'âme. Donc ça veut dire que vous pouvez faire ce qu'on voulait de son corps, mais on avait ça ne provoquait aucun problème au niveau de mon âme et de mes relations avec Dieu. La deuxième idée, c'est Paul qui le dit aux Romains, il dit, mais que dire maintenant, persistons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Dieu pardonne, alors allons-y, péchons. Troisième idée, qu'on le retrouve dans l'Épître aux Galates, par rapport à la liberté. Paul dit aux Galates, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Je suis libre en Christ, donc je fais ce que je veux. Et puis, une troisième idée qui est plus contemporaine, mais qui peut nous influencer, on ira tous au paradis. Et ça, ça a vraiment forgé l'esprit de nos contemporains. Alors, nous sommes invités à être attentifs. Et puis, il peut y avoir d'autres vérités, d'autres lumières qui sont beaucoup plus subtiles, en particulier concernant le fait que Dieu... on peut idolâtrer Jésus, par exemple, dans le sens qu'on s'attend à ce que Dieu intervienne avec puissance dans toutes nos situations, qu'il nous libère de tous nos problèmes, etc. Mais est-ce vraiment ce Dieu-là qui est notre Dieu? Regardons à Dieu. Soyons attentifs à sa vérité, parce que pour résister contre les fausses lumières, il n'y a qu'une seule solution, c'est de lui connaître vraiment. Une relation personnelle intime avec Dieu, de pouvoir, au travers de notre lecture de la Bible, discerner quelle est la lumière que Dieu veut pour nos vies, et de vivre en relation étroite avec lui. Donc attention aux fausses lumières, nous dit Paul. Et puis il dit une autre chose. Il dit attention aux sollicitations des ténèbres. Paul dit au verset 7, « Ne vous associez pas à ces gens-là. » Pourquoi dit-il cela? Parce que nous appartenons à Dieu. Vous êtes lumière. Autrefois, dit Paul, vous apparteniez aux ténèbres, vous étiez ignorants, égarés, perdus, coupables, souillés, sans espoir. Maintenant, vous êtes en Christ. Vous appartenez à la lumière, vous êtes éclairés, purifiés, sanctifiés et bénis. Ce n'est plus la même personne qui règne. Il y a eu un changement de propriétaire, si on pourrait l'illustrer ainsi. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Paul dit aux Colossiens aussi qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce changement de propriétaire rend incompatibles les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. L'obscurité et la lumière ne peuvent pas coexister. C'est une incompatibilité de nature. Et pourtant, on voit que notre environnement nous sollicite. Paul dit aux Thessaloniciens, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit. » ni des ténèbres. Il dit aux Corinthiens, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Paul répond en disant, ne vous associez pas avec ces gens-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne s'agit bien évidemment pas de couper toute relation. Ce serait absolument contraire à la grande mission que nous a donnée de Jésus d'aller faire de toutes les nations des disciples, contraire à l'exemple de Paul qui s'est fait tout à tous. Il s'agit plutôt de ne pas aimer le monde, comme dirait Jean dans sa première épître, ni les choses qui sont dans le monde. Et le psaume 1 l'illustre aussi de cette manière, et il dit « Heureux qui ne suit pas les conseils des méchants sans foi ni loi. Heureux qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. » Il s'agit donc de ne pas se laisser entraîner, de ne pas participer, de ne pas être partenaire ni complice de se désolidariser de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On retrouve également dans les Proverbes des textes qui parlent de cela. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leur pied court au mal. » J'ai un ami qui travaille toujours, mais c'est plus le même, dans un groupe pharmaceutique. Et un jour, il m'a dit que l'une des branches de son entreprise fabriquait des médicaments qui étaient en fait détournés par les toxicomanes pour alimenter leur toxicomanie. Et il m'a dit qu'il avait clairement dit à ses patrons qu'il ne travaillerait jamais dans cette branche-là. Il avait absolument ce désir de ne pas s'associer à des œuvres de ténèbres. Et les sollicitations sont nombreuses. J'ai fait une flèche ici, mais les sollicitations sont nombreuses. Et ça concerne des choses de la vie courante. J'en ai noté un certain nombre que je vous livre. Faire une copie légale des logiciels, de films, de musique, ou bien les utiliser. Que ferais-tu si on te demandait de participer à une magouille, à une tricherie, à une injustice ou à un mensonge? Il est tellement difficile de dire non quand tout le monde le fait. Et j'ai pourtant l'impression que parfois nous étouffons la lumière de Dieu en nous, nous la cachons et participons plus facilement aux œuvres des ténèbres. Mais parce que nous appartenons à Dieu, Dieu nous invite à laisser le Saint-Esprit nous illuminer pour que nous sachions de plus en plus comment faire face aux sollicitations, aux tentations qui se présentent à nous. Nous devons être fiers d'appartenir à Dieu et de défendre cette appartenance avec vigueur. Une vie éclairée par Dieu. Et puis nous voyons ensuite dans les versets suivants que c'est une vie qui est rayonnante et qui s'illustre par un nouveau comportement. Le fait d'appartenir à Dieu amène à un comportement différent. Jésus disait « Vous êtes la lumière du monde ». Nous allons voir dans un premier temps les fruits de cette lumière, les versets 9 et 10. Nous sommes invités à avoir une vie, ce que j'ai appelé une vie transparente. Comportez-vous comme des enfants de la lumière. Rayonnez de la lumière qui est en nous. Vivre comme des gens à l'aise en pleine lumière, qui n'ont rien à se reprocher. Mettre en conformité dans nos actions ce que nous sommes devenus spirituellement. Et puis répandre la clarté autour de nous. Paul utilise ici décrit trois fruits, la bonté, tout ce qui est moralement excellent, aimable, la justice, intégrité dans nos relations, droiture de cœur et la vérité, l'honnêteté, l'équité, l'amour de la vérité. On peut penser à Zachée, qui était au départ tordu, qui volait. Et quand Jésus est entré dans sa maison, eh bien, voilà, il est devenu droit, il est devenu transparent, il a rendu beaucoup plus que ce qu'il avait pris et il s'est engagé à donner la moitié de son argent aux pauvres. Aujourd'hui, le salut est entré dans sa maison. Aujourd'hui, dans la vie de Zachée, son comportement a été transformé parce que Jésus est la lumière qui a transformé sa vie. Et sa vie est devenue transparente. Et puis c'est aussi une vie, on le voit plus loin, qui discerne le bien. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ça nécessite une réflexion, d'examiner, de vérifier notre propre vie à la lumière de la parole de Dieu. Avons-nous cette attitude de vie réfléchie dans nos conversations, dans notre style de vie, notre habillement, les livres que nous lisons, les divertissements que nous avons? Le choix de nos amitiés, la façon dont nous gérons nos vacances, dans la façon dont nous achetons les choses, les sports que nous pratiquons. Tous les domaines de notre vie, nous devons les examiner à la lumière de la parole de Dieu. Discerner le bien. Donc Paul parle des fruits de la lumière Et il parle ensuite, plus loin, à partir du verset 11 à 14, des effets de la lumière. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres. Nous vivons cette difficile réalité d'être à la fois dans le monde, au milieu des autres, et c'est très bien, mais d'avoir aussi une vie qui est séparée, avec des valeurs identifiées. Ne vous compromettez pas en participant à. Que faire quand nous découvrons une magouille, une tricherie? Si nous sommes témoins d'une injustice, d'une violence, d'un abus de pouvoir, on devient complice si on ne dit rien. Ne rien faire fait de nous des complices. Quand j'étais étudiant, j'étais dans le bureau des élèves, hein, c'est le bureau qui organise les activités extrascolaires des élèves, et on organisait régulièrement des booms. Donc on vendait des places, des billets pour entrer, etc., boîte de nuit. Et puis j'ai découvert un jour que lors d'une de ces soirées, il y avait deux personnes qui avaient fait un système de double billetterie. C'est-à-dire qu'ils avaient vendu des billets, mais qu'ils n'avaient pas reversé l'argent à la boîte qui nous accueillait. Alors, que faire? Que faire? Mais avec plusieurs, on était d'accord de les confronter et de les mettre devant leur fait accompli, de leur dire que c'était inadmissible. Je me suis senti obligé de me distinguer, de me différencier. Une vie qui met en évidence le mal. Paul dit démasquer-les. Il parle de pratiques stériles. Et il nous pose la question, quel fruit portiez-vous alors ? Dans Romains, des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car c'est la fin de ces choses, c'est la mort. Démasquer, cela veut dire dévoiler, illuminer, rendre visible ce qui est caché, mettre en évidence. Dans une exposition, parfois les salles sont sombres et ce sont les spots que l'on met au-dessus. On a vu la parole à la peinture qui était chez nous, il y avait des spots pour mettre en évidence les choses, pour mettre en relief les œuvres d'art. Il y a deux choses qui nous permettent d'illuminer le comportement des autres, notre propre comportement. Jésus dit, quiconque fait le mal hait la lumière, le verbe haïr, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. La lumière de Christ dévoile en nous la réalité des choses. De la même manière, parce que Christ est la lumière du monde, il habite en nous, Jésus nous appelle aussi à être lumière du monde. Et si nos vies sont différentes, si elles sont transparentes, alors elles rayonneront et rendront manifestement les œuvres des ténèbres par contraste. Et puis il y a aussi l'illumination par la parole. La Bible nous invite à prendre parti pour le juste, le bon, le durable, à dénoncer l'injuste, le mauvais et le futile. Et on voit dans l'histoire récente et plus ancienne un certain nombre de personnes qui se sont battues. On peut penser à Dietrich Bonhoeffer qui a dénoncé l'antisémitisme dans les années avant la guerre. On peut penser à William Wilberforce qui s'est aussi battu contre l'esclavagisme. On peut penser à Martin Luther King qui s'est battu contre la ségrégation raciale. Il ne s'agit donc pas pour nous, en tant que chrétiens, d'être dans notre tour d'ivoire et puis de scruter avec des jumelles et de tirer sur tout ce qui bouge. Il ne s'agit pas de juger, de condamner, mais de prendre conscience à la fois du péché qui est en nous et d'aider les autres à prendre conscience du péché qui est en eux. Et nous voyons cette illumination par la lumière au verset 13, quand Paul dit que quand ces choses sont démasquées, la véritable nature paraît à la lumière. La lumière reflète, nous dit John Stott, la lumière qui est reflétée par les chrétiens qui vient du Christ, révèle les hommes dans leur réalité, à la fois digne de jugement et de la condamnation. Ça, c'est notre réalité première. Mais, si la lumière rend visible l'état de péché des hommes, le but de cette mise à la lumière n'est pas de condamner, mais d'amener à un changement radical de vie, au commencement d'une vie nouvelle en Christ, à la création d'une nouvelle lumière. Ça, c'est ce changement extraordinaire que Dieu veut faire dans la vie de chacun. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pourquoi la lumière peut conduire les hommes à la conviction de péché, à la repentance et à la foi en Jésus. Et c'est ce que Paul exprime au verset 14 quand il dit « Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. Ce qui se laisse éclairer par la lumière est capable à son tour de devenir lumineux. » Est-ce que nous croyons cela? Alors Paul nous parle d'une vie éclairée, d'une vie rayonnante, et il termine en nous parlant d'une vie réfléchie. Parce que le fait d'appartenir à Dieu réoriente nos priorités. La première chose que nous voyons au verset 15, c'est la responsabilité que nous avons. Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Il nous demande d'être lucides, de veiller avec soin à notre manière de vivre, d'examiner toute chose, je l'ai déjà dit tout à l'heure, à la lumière de la parole de Dieu et du modèle de Christ. Dire non aux mensonges, même si cela a des conséquences difficiles à gérer, dire non aux drogues, à l'excès d'alcool, même si tout le monde le fait, falsifier ses impôts ou être honnête, même si on doit payer une somme conséquente, être infidèle ou rester fidèle à son conjoint malgré les tentations, utiliser un logiciel sans payer la licence, faire des copies, j'en ai parlé, utiliser des photocopieuses au travail pour des besoins personnels, utiliser le téléphone du travail pour des besoins personnels. Lucidité, lucidité et sagesse. Ne vous comportez pas comme des insensés, dit-il. L'insensé n'est pas celui qui est fou, mais celui qui ne connaît pas le vrai sens de la vie, celui qui vit au jour le jour sans penser à plus loin. Nous sommes invités à être des gens avisés, à savoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal, l'important de l'accessoire. Savoir que nous sommes participants à la réalisation du dessein de Dieu pour le monde. Savoir que les jours sont mauvais, comme il est écrit dans le texte. Savoir que le temps est compté. Et puis, dans cette lucidité, cette sagesse, Paul souligne aussi la maîtrise du temps que nous devons avoir. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Il parle ici d'occasions favorables. Il ne parle pas du temps qui passe, mais des occasions favorables. Paul dit aux Colossiens, conduisez-vous avec sagesse dans votre relation avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et mettez à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que d'occasions perdues dans nos vies. Parfois aussi, que de temps perdu. Et le temps, il peut être perdu, mais il ne peut jamais être retrouvé. Il ne peut pas être amassé, il doit être dépensé. Il ne peut pas non plus être renvoyé à plus tard s'il n'est pas utilisé avec profit. Il est irrémédiablement perdu. Je cite là un auteur. Je cite encore une autre personne qui dit « Un jour, quelqu'un fit paraître cet avis de recherche perdu hier, entre le lever et le coucher du soleil, 2 heures en or, serties chacune de 60 minutes de diamants. Aucune récompense n'est offerte car elles sont perdues à tout jamais. » Le temps perdu. Ça nous amène aussi à réfléchir à nos priorités. Nous disposons tous du même crédit temps. Alors, sur nos forfaits téléphones, on a parfois des crédits différents. Mais par rapport à notre gestion du temps, nous avons tous le même crédit temps. 24 heures de 60 minutes. Pas une de plus. Pas une de moins. Comment gérons-nous notre temps? Alors j'ai essayé de réfléchir en moyenne, parce que évidemment chacun a une vie différente. Mais si on calcule les incontournables, il reste quand même du temps. Alors parfois les incontournables pour certains sont plus importants que d'autres. Mais j'ai calculé qu'il reste quand même sur une semaine, 41 heures qui ne sont ni affectées au sommeil, ni au repas, ni au travail, ni au déplacement. Que faisons-nous? Comment tirons-nous le meilleur de cette période laissée à notre liberté? Il me semble primordial de bien planifier son temps, de se fixer des échéances et surtout de se définir des priorités. Le temps est compté, les jours sont mauvais, qu'allons-nous mettre comme priorité? Remettons-nous les choses à demain. Ah, ça, c'est l'arme la plus efficace de Satan pour nous escroquer de notre héritage éternel. Remettre à demain. J'ai un cousin qui a dit, quand il avait 18 ans, je me convertirai quand j'aurai 25 ans. Aujourd'hui, il a 26, 27, ou il ne s'est toujours pas converti. Remettre à demain, l'arme la plus terrible entre les mains de Satan. Paul dit aux Romains, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dieu nous appelle à vivre dans notre aujourd'hui, à nous engager pour lui, à lui faire confiance aujourd'hui pour notre vie. Sommes-nous prêts à saisir toutes les occasions que Dieu nous donne pour illuminer les ténèbres qui nous entourent? Ou bien la gardons-nous bien sagement captive? J'en arrive à ma conclusion. Vivre avec Dieu, c'est vivre différemment. Dieu nous éclaire pour que nous puissions connaître la route à suivre et pour savoir dire non aux fausses pistes, aux fausses lumières. Et en recevant la lumière de Dieu, notre vie doit rayonner de bonté, de justice et de vérité afin de servir de témoin de la lumière que nous avons reçue de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils puissent recevoir eux aussi la lumière de Dieu dans leur vie. Et puis notre manière de vie doit être caractérisée par la sagesse et par un désir de répandre autour de nous la lumière que nous avons reçue. Et Paul, dans une autre épître, dira aux Philippiens, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Alors je nous invite tous à briller dans ce monde, là où Dieu nous a placés, avec les gens qui nous entourent, à briller pour leur apporter cette lumière dont ils ont tant besoin, cette lumière dont le monde a tant besoin pour pouvoir changer, entrer dans cette vie nouvelle qu'il offre en Jésus-Christ. Et je vous invite maintenant à la prière.